BPM, le journal d'information locale.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal quotidien sur BPM. Dans l'actualité de ce mercredi 18 novembre, nous commençons par Buchelet. Un homme de 76 ans a été interpellé pour violence conjugale. Nous irons dans le Vexin. Le parc lance un appel à projet pour une meilleure distribution des produits locaux. De la culture ensuite, la ville de Villennes-sur-Seine propose une expo virtuelle cette semaine. Nous nous rendrons à Mantes-la-Jolie où les travaux de la gare ont enfin repris. Et puis toujours à Mantes, l'aide-soignant Bernard Landais nous détaillera la situation Covid au sein de l'hôpital François Quesnay. On commence donc par Buchelet. Un homme a été interpellé à son domicile samedi soir suite à la plainte déposée par sa femme pour des violences conjugales sous la menace d'une arme. L'auteur des faits, âgé de 76 ans, a été laissé libre et convoqué le lendemain. Direction le Vexin, le parc naturel régional lance un appel à projet. Il est destiné à favoriser l'émergence d'initiatives permettant d'assurer une meilleure distribution des produits et services locaux. Les projets concerneront les nouvelles formes de commercialisation et de distribution locale, les solutions logistiques innovantes et à faible impact environnemental, et enfin la digitalisation pour une relation producteur-commerçant-prestataire-consommateur performante. Les communes, associations, entreprises, commerces, producteurs locaux peuvent répondre à cet appel à projet. Une subvention maximum de 20 000 euros sera allouée à chaque projet sélectionné. Le dépôt des candidatures est possible jusqu'au lundi 30 novembre. De la culture à Villennes-sur-Seine. Cette semaine, la ville met en place une exposition en réalité virtuelle avec 114 œuvres d'artistes locaux. L'exposition s'intitule « Artistes en liberté ». Elle rassemble les œuvres d'art pluridisciplinaires d'une cinquantaine d'artistes villénois et des alentours ayant travaillé sur le thème de l'art face au confinement, l'enfermement puis le retour à la liberté. L'exposition était prévue en présentiel du 6 au 15 novembre, mais les artistes et les visiteurs peuvent se retrouver dans une galerie virtuelle pour discuter. 5 salles virtuelles sont ainsi ouvertes aux visiteurs, dans la limite de 20 personnes par salle. La ville propose également des séances en direct sur Facebook et Instagram. En outre, une nouvelle application WeLock Art sert de lieu annexe d'exposition où les artistes peuvent montrer leurs œuvres et le catalogue. Ces deux outils sont gratuits. L'exposition virtuelle se tient jusqu'à vendredi sur framvr.io/AEL. Nous nous rendons à Mantes-la-Jolie. Après plusieurs mois d'arrêt, les travaux à la gare SNCF ont enfin repris. Ce chantier de réhabilitation vise à moderniser la gare en vue de l'arrivée du RERE prévu en 2024. Les travaux avaient débuté en 2019. Ils avaient été stoppés en raison de la découverte de plusieurs réseaux souterrains. En outre, une galerie souterraine située en dessous du bâtiment central a été signalée. Un état des lieux a d'abord été réalisé afin d'évaluer les conséquences de cet arrêt de chantier. Les équipes ont ensuite pu reprendre leur travail et d'ici la fin de l'année, elles auront comblé la galerie souterraine. Le chantier sur le bâtiment pourra commencer début 2021. Il sera terminé à l'été 2022. Nous restons à Mantes-la-Jolie pour terminer ce journal avec un point sur la situation Covid au sein de l'hôpital François Quesnay. Bernard Landais, aide-soignant à l'hôpital et secrétaire général de Force Ouvrière, nous détaille le fonctionnement actuel, notamment en réanimation, et comment l'hôpital s'organise pour s'occuper de tous les patients et pas uniquement ceux atteints du Covid.
Pour l'instant, en réanimation pure, c'est-à-dire avec des appareils de respiration prévus pour les réanimations, on a toujours nos 10 places en réa. On a toujours des respirateurs dans ce qu'on appelle l'unité de surveillance continue, qui est une sorte de réanimation, mais un tout petit cran en dessous, en fait, qu'on peut très très facilement convertir en salle de réanimation, ça ne pose aucun souci. Le matériel est déjà là et on a le personnel. Et pour l'instant, ces 4 lits du SC ne sont pas des lits de réanimation pure. Donc pour l'instant, on tient le choc avec entre 8 et on va dire 11 patients Covid, mais donc quand même entre 8 et 10 sous respirateur. De toute façon, le secteur public, l'hôpital public s'adaptera aux besoins. Donc s'il y a des patients qui nécessitent des respirations artificielles, des actes de réanimatoire, ils seront naturellement pris en charge. On se débrouillera pour le faire, on a le matériel, le personnel c'est un peu compliqué, mais on mettra le personnel qualifié au chevet des patients, mais faut pas que ça nous déborde comme en mars. On tournerait que pour le Covid, effectivement on renforcerait les équipes dans les secteurs Covid sans problème, et on serait même, je dirais, on serait large. sauf que, bah, écoutez, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autres pathologies qui sont à traiter dans un hôpital. Ça peut être de la maternité, ça peut être de la médecine, ça peut être de l'oncologie. Il y a aussi de la chirurgie, chirurgie viscérale, chirurgie orthopédique, et effectivement, ces patients-là, bah, on les prend en charge, parce qu'il faut qu'on les prenne en charge. Il y a eu vraiment quasi une catastrophe sanitaire au mois de mars et avril, avec tous les reports qui ont occasionné des pertes de chance pour pas mal de patients. Donc non, il faut les prendre en charge, mais c'est très très compliqué. Les patients qui viennent pour une pathologie X, et donc ils ont une pathologie Covid en plus, asymptomatique ou début de symptomatique, et qui nécessite quand même leur opération chirurgicale, ils passent à la fin du programme. Mais ça, c'est quelque chose qui est connu pour nous, parce qu'un patient infecté sur une opération, par exemple, il s'est cassé la jambe, pas de souci. L'autre, il s'est cassé la jambe et ça s'est infecté. Celui qui s'est infecté passera après, en fin de programme. Pourquoi ? Parce qu'une fois que lui, il est passé, ben, on nettoie la salle, mais plus qu'à fond, etc., pour éviter qu'il y ait des contaminations d'autres patients. Donc ça, c'est des dispositifs qu'on maîtrise déjà parfaitement dans les hôpitaux publics. Pour le bloc opératoire, tant que les blocs fonctionnent et qu'il y a des lits pour hospitaliser les patients, ça pose pas de soucis. Les patients Covid et non-Covid seront traités en fonction de leur urgence, en fonction des créneaux de salles disponibles dans la spécialité. Et c'est géré quasi parfaitement bien, quoi, parce qu'on sait faire.
Malgré tout, le personnel soignant reste soumis à une surcharge de travail et une fatigue importante, avec relativement peu de renforts.
On est relativement bien occupé par les patients qui sont en médecine infectieuse, en SFR Covid, aux urgences, et en réanimation. En plus, on a un maintien des activités non-Covid, donc c'est pas forcément extrêmement simple au niveau des prises en charge des patients. Il faut se changer régulièrement, il y a des secteurs Covid, des secteurs non-Covid, il faut faire attention à la circulation. On a aussi quand même beaucoup de collègues qui sont contaminés, donc on a un absentéisme qui est assez important. En moyenne, aux alentours de 10%, et là on doit être peut-être à 15%, mais c'est vraiment au doigt mouillé, parce que on a beaucoup beaucoup d'arrêts maladie, et en fait on pourra vraiment faire les totaux à la fin de l'année, quoi. Très peu de personnel en remplacement, principalement des infirmiers spécialisés. On a nécessité réanimation, on a des cadres aussi qui sont venus pour prêter main-forte, mais c'est largement en dessous des 80, plus de 80 personnels qui sont arrivés sur mars et avril. Là, on en a à peine une quinzaine, quoi. C'est très, 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 très juste. C'est très, très dur physiquement. On a du personnel qui est très fatigué, mais de toute façon, s'il est fatigué, ben, il est plus soumis aux infections, et comme on est dans un environnement où il y a énormément de virus du Covid, bah, ils chopent le Covid, et puis on a des agents qui sont pendant 2-3 semaines. Au mieux, s'ils n'ont pas de symptômes, ils restent au bout d'une semaine, une semaine et demie, ils viennent travailler, mais s'ils ont des symptômes, ça s'amplifie. Moralement, les gens ne respectent pas forcément toutes les consignes données. La vie sociale, elle est ce qu'elle est, donc c'est très compliqué, y compris pour le personnel soignant, parce qu'on voudrait bien voir nos familles, on voudrait bien pouvoir circuler librement, et comme tout citoyen, on est contraint. Mais en plus, on voit les résultats des gens qui sont malades.
Les patients atteints du Covid sont en moyenne plus jeunes que lors de la première vague. Le personnel soignant insiste sur la nécessité de continuer à respecter les gestes barrières.
Il y a des patients beaucoup plus jeunes que lors de la première vague. Peut-être que Monsieur le ministre Véran s'énervait parce qu'il avait vu des jeunes de 28 ou 38 ans en réanimation. Nous aussi, on a des patients qui sont jeunes et qui sont dans les lits d'hospitalisation ou voire dans des IRÉA, parce que leur état s'est aggravé. Ça touche tout le monde. Hein. Les patients qui meurent le plus, malheureusement, effectivement, sont les personnes âgées, parce qu'en fait, on a quand même drôlement plus de chances de mourir du Covid quand on a 90 ans ou qu'on a 60 ou 40 ans avec plein de comorbidités, c'est-à-dire hypertension artérielle, antécédents d'accidents vasculaires cérébraux, diabète, il y a plein de pathologies comme ça où effectivement cette qualité de virus va tout amplifier. Mais une personne qui est complètement saine, oui, si elle a 90 ans, malheureusement, c'est compliqué. c'est surtout les personnes âgées qui décèdent, mais il y a aussi des jeunes. Il faut que les personnes pensent à continuer de se protéger. C'est pas parce que dans les informations, on entend il y a un mieux, on a peut-être passé le pic, qu'il faut pour autant se relâcher. Le truc qui s'est installé dans nos vies, il va y rester pendant un bon paquet d'années. Il restera peut-être définitivement. Il faut se couvrir, il faut se protéger, il faut éviter de tomber malade. Voilà. Si j'ai vraiment un truc à dire, c'est ça, parce que c'est une catastrophe, y compris sanitaire, mais y compris sociale.
C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.
Retrouvez le journal d'information locale du Mantois sur bpmlaradio.com.